Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Salut à tous, je suis avec l'animateur de l'émission de Radio Libertaire Sortir du capitalisme.
Oui, alors du coup, voilà pour parler d'un peu de l'actualité du fascisme, je vais me baser principalement sur un livre, le livre d'Hugo Paletta, donc qui est un sociologue et donc qui a publié en 2018 à la Découverte un ouvrage qui s'appelle La possibilité du fascisme, France, la trajectoire du désastre, et qui est un ouvrage extrêmement intéressant sur voilà les conditions de possibilité de l'émergence du fascisme en France au cours des prochaines années et en même temps les facteurs qui préparent déjà voilà l'avènement possible du fascisme en France. Et puis je vais pas en parler, mais si on s'intéresse également à d'autres cas, on peut lire l'ouvrage qui vient de sortir aux éditions Divergence de Michael Boltrasmussen, La contre-révolution de Trump. Où là, c'est un peu une discussion sur la nature fasciste ou non de Trump, qui est assez intéressante, même si je suis pas forcément complètement d'accord avec la perspective de l'auteur, et je trouve que l'ouvrage de Hugo Paletta est plus rigoureux là-dessus. Pour commencer, du coup, effectivement, on peut brièvement expliquer quelle est la thèse d'Hugo Paletta dans le livre la possibilité du fascisme. Donc, globalement, son idée, c'est que même s'il ne faut pas utiliser le concept de fascisme à tort et à travers comme une insulte politique et donc utiliser ce concept de manière pas rigoureuse, ce qui a été fait depuis les années 50 où le concept de fascisme a perdu tout sens et est devenu une insulte qu'on adresse à ses adversaires politiques. Lui, il pense quand même que ce concept de fascisme, pour autant, il doit pas être uniquement limité à des phénomènes qui ont eu lieu en Europe dans l'entre-deux-guerres, mais que il peut encore avoir une actualité. Alors lui, il définit le fascisme de manière relativement simple, donc page 30-31 dans son livre. Donc il dit « S'il fallait s'accorder sur une définition même minimale et provisoire du fascisme, sans doute pourrait-on le considérer comme un mouvement de masse qui prétend œuvrer à la régénération d'une communauté imaginaire considérée comme organique, nation, race et ou civilisation, par la purification ethno-raciale, par l'anéantissement de toute forme de conflit social et de toute contestation, politique, syndicale, religieuse, journalistique ou artistique, autrement dit, par l'évidement de tout ce qui paraît mettre en péril son unité imaginaire, en particulier la présence visible de minorités ethno-raciales et l'activisme d'opposition politique. » Donc du coup, avec une définition pareille, il va dire que on peut encore assister à une résurgence du fascisme aujourd'hui, non pas simplement sous la forme de tous ces petits groupuscules néo-nazis et néo-fascistes qui existent en France, en Allemagne et ailleurs en Europe, mais aussi sous la forme d'une transformation du Front National en partie authentiquement fasciste. Donc pour l'instant, il dit que le Front National n'est pas encore un parti fasciste, c'est-à-dire c'est pas un parti qui est prêt pour cette régénération de la nation française à supprimer les libertés démocratiques, entre guillemets, à réprimer brutalement le mouvement ouvrier, etc., des phénomènes qui sont caractéristiques du fascisme de l'entre-deux-guerres, comme on l'a montré dans une émission sur le livre de Daniel Guérin, « Fascisme et grand capital », mais que c'est un lui, il parle de parti néofasciste en gestation, c'est-à-dire néofasciste dans le sens où ce serait pas un retour au fascisme classique avec les défilés militaires, etc., etc., puisque bon, évidemment, ça c'est propre au contexte de l'entre-deux-guerres et il y a pas de raison que le Front National doive ressortir à ce genre de choses, notamment par le fait que l'État aujourd'hui est beaucoup plus fort et qu'il suffirait de prendre le pouvoir et notamment de mettre la main sur les appareils de répression, police, armée, justice, pour se passer quasi complètement de milices, qui était effectivement une caractéristique du fascisme classique. Et en même temps, donc parti néofasciste en gestation, parce que, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'analyse de Ugo Paletta, c'est qu'il dit bien que le fascisme émerge dans des conditions très spécifiques et ces conditions ne sont pas encore réunies en France et d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux. Pour lui, les conditions de possibilité du fascisme, il en voit trois. Une crise d'hégémonie politique complète, c'est-à-dire où tous les partis bourgeois traditionnels, y compris La République En Marche, le Parti Socialiste et les Républicains, auraient perdu toute base sociale, ce qui n'est pas encore le cas. Ils ont encore une base sociale. Les partis néolibéraux classiques ne sont pas encore complètement délégitimés et privés de tout soutien populaire. Donc première dimension. La deuxième dimension, c'est que on n'est pas dans un tel état de crise que l'État ne peut gouverner qu'à travers une répression policière et militaire aveugle. C'est-à-dire qu'il y a toujours aujourd'hui un mélange à la fois de répression et de tentative de fabrication du consentement. L'État actuellement en France n'est pas complètement délégitimé. Et même s'il se délégitime de plus en plus auprès d'une partie de la population et que donc les mouvements sociaux sont réprimés, il n'est pas encore complètement à gouverner uniquement par le bâton, il y a encore la carotte. Et puis la troisième dimension, c'est que même si le racisme et le nationalisme en France ont atteint un pic ces dernières années, qu'on n'avait pas vu depuis, je ne sais pas trop quand, mais depuis la guerre d'Algérie, on va dire, voire depuis les années 30, malgré tout, on n'en est pas encore à une situation où le nationalisme et le racisme prendraient principalement la forme d'une discrimination légale affichée, du type privé de droits civiques, les musulmans, et on n'est pas encore non plus à une répression ouverte de tous les étrangers et de tous les musulmans, même si, évidemment, c'est déjà quelque chose qui en germe. Donc, ces trois aspects-là ne sont pas encore réunis, mais en même temps, et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, qui montre, c'est que même si la crise d'hégémonie politique n'est pas complète, même si l'État peut encore gouverner autrement que par la répression, et même si l'offensive nationaliste et raciste contre les personnes racisées, les personnes non blanches, les personnes musulmanes, les migrants, etc., n'a pas encore pris la forme d'une répression de type fasciste, c'est-à-dire les camps de concentration, la répression massive, les déportations. Cette offensive nationaliste et raciste, cette crise d'hégémonie politique et ce durcissement autoritaire et répressif de l'État sont déjà en marche. Et donc, d'une certaine manière, même si lui dit qu'il n'y a pas de fascisation à l'heure actuelle, parce que le fascisme, c'est vraiment lié à un contexte de crise extrême du capitalisme et de l'hégémonie politique bourgeoise, même si on n'est pas encore dans cette crise complète, donc il y a déjà un mouvement historique qui penche plutôt vers une situation où les conditions de naissance du fascisme, comme parti politique qui prendrait le pouvoir, sont de plus en plus prégnantes dans la société française et ailleurs. Donc je pense que l'intérêt de ce livre, c'est de montrer que avec un concept rigoureux de fascisme, on peut quand même faire une analyse fine de la situation, non pas que on est déjà dans le fascisme ou que tout État est fasciste, parce qu'évidemment il y a quand même une différence entre l'État libéral classique et l'État fasciste, non pas parce que le libéralisme serait intrinsèquement bon, mais ça c'est quelque chose que beaucoup de penseurs allemands ont dit dans les années 30, c'est que l'État fasciste, c'est l'État bourgeois dans une situation de crise exceptionnelle du capitalisme. Donc il n'y a pas d'opposition, c'est juste que c'est pas au même moment. L'État libéral et l'État fasciste ne sont pas au même moment. Et là, on est dans un État néolibéral autoritaire qui n'est pas fasciste, qui n'est pas en voie de fascisation, mais qui montre bien, en fait, finalement, que on est dans une situation de crise déjà suffisamment avancée pour qu'on puisse craindre, à un horizon pas si lointain que ça, une situation de crise tellement exceptionnelle qu'elle permettrait le retour au pouvoir du fascisme. Et d'autre part, je pense que c'est quelque chose d'important, à la fois cette crise d'hégémonie politique qu'on ressent, le durcissement autoritaire et néolibéral de l'État, et l'offensive nationaliste et raciste, donc ces trois piliers, non seulement indiquent le fait qu'on est déjà dans une situation de crise suffisamment grave pour qu'on puisse penser que une situation de crise exceptionnelle du capitalisme qui permettrait le retour au pouvoir d'un parti néo-fasciste tel que le Front National, on n'en est pas si loin, mais aussi cette offensive nationaliste et raciste, cette crise d'hégémonie politique et ce durcissement néolibéral et autoritaire de l'État, en fait, elle prépare le fascisme. Non pas qu'elle soit proto-fasciste, non pas qu'elle serait partie d'une dynamique de fascisation, mais c'est sûr que le fait que les partis politiques bourgeois traditionnels se décrédibilisent toujours plus en ne représentant plus grand monde, en voyant leur base sociale de plus en plus faible et en n'étant capable simplement que de politiques néolibérales, évidemment, ça prépare les esprits à une prise du pouvoir par le Front National. En témoignent ses scores électoraux. Donc, effectivement, cette crise d'hégémonie politique, elle prépare les esprits à une arrivée au pouvoir du fascisme. Deuxièmement, le durcissement autoritaire de l'État, évidemment, prépare les esprits à un État de type fasciste, puisqu'il accoutume les gens à l'état d'exception, l'état d'urgence, la répression policière extrêmement forte des mouvements sociaux et surtout des quartiers populaires racisés. Troisièmement, voilà la multiplication des discours et des mesures racistes, particulièrement à l'encontre des musulmans, habitue la population française à un régime d'exception raciste et nationaliste tel que celui du fascisme. Donc on voit bien en quoi est-ce que la situation actuelle, elle est à la fois préoccupante parce qu'elle montre qu'on est dans une situation qui n'est plus très éloignée du fascisme, et d'autre part parce qu'elle prépare l'arrivée au pouvoir légitime, entre guillemets, hein, notamment par les élections du fascisme, notamment sous la forme en France du Front National.
Ok, du coup, moi j'ai quelques questions, notamment. Quand tu dis qu'effectivement c'est une situation qui prépare le fascisme et qu'on n'en est pas encore à des niveaux de répression qui nous permettraient de parler directement de répression fasciste. En fait, moi souvent je me dis surtout que la nuance elle est de plus en plus dans l'hypocrisie, en fait, dans le sens où effectivement la répression n'est pas dite, on ne la voit pas, mais de plus en plus on fait face à des processus de répression qui sont extrêmement violents et qui ont en plus les moyens de... Enfin, un arsenal vraiment très développé, quoi, en termes de surveillance, en termes de plein de domaines de cet ordre-là. Du coup, c'est vrai que je suis assez d'accord pour signifier qu'effectivement, il y a quand même encore une différence et que c'est important de la tenir, par rigueur déjà théorique et ne serait-ce que pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. Autant, effectivement, moi j'ai de plus en plus le sentiment que la nuance, elle se situe dans l'hypocrisie. Alors après, c'est vrai que c'est quand même toujours mieux de faire face à quelqu'un qui assume pas sa violence. C'est-à-dire que déjà, il peut pas la. Enfin, en tout cas, il y a une vraie différence quand on se retrouve face à quelqu'un qui en plus est fier de sa violence. Là, c'est clairement un autre régime de répression, même si effectivement l'un prépare l'autre. Et du coup, je me demandais surtout par rapport au fait que tu disais que il n'y aurait pas de défilé armé avec un néofascisme qui pourrait advenir maintenant. J'aurais aimé du coup que tu développes un tout petit peu sur ça, pourquoi il n'y aurait pas de défilé, dans le sens où peut-être qu'un affrontement armé aurait peut-être moins de sens par rapport à notre situation économique actuelle, qui est quand même très différente du début du siècle. Donc est-ce que tu pouvais expliciter un petit peu ça?
Oui, alors d'abord sur la question de la répression, il s'agit pas de nier qu'on est déjà dans des formes de répression extrêmement violentes, à la fois des mouvements sociaux et de manière plus permanente et peut-être encore plus forte, des quartiers populaires peuplés en majorité de personnes racisées, où effectivement il y a régulièrement des morts.
Ou même quand on voit dans les CRA, on est déjà dans quelque chose qui prépare des camps, en fait, littéralement, hein.
Oui, exactement. C'est pour ça que je pense que, en fait, la différence entre effectivement cet État autoritaire et le fascisme, c'est pas une différence qui serait que d'un côté il y aurait quelque chose de souhaitable et quelque chose de pas. C'est une différence à la fois de degré, donc en termes de répression, c'est-à-dire que bon, globalement, si on imagine un État fasciste en France, c'est que les CRA seraient pas simplement pour les clandestins, mais pour une partie de la population aussi qui est française, c'est-à-dire une partie des personnes racisées seraient susceptibles de finir dans ces espèces de camps de rétention administrative, dans ces prisons racistes. D'autre part, je pense que la répression des manifestations passerait un cran de plus, c'est-à-dire que clairement il y aurait des morts, à mon avis plus régulièrement. Enfin voilà, qu'il y aurait une répression dans le cadre d'un État fasciste. On peut très bien imaginer que, étant donné que l'État considérerait les manifestations comme une opposition à la France, à l'identité nationale, au peuple français, qu'ils n'hésiteraient pas à tirer à balles réelles. Et puis, le dernier aspect, c'est que je pense qu'on passerait en termes, par exemple, de gestion des quartiers populaires, d'une gestion policière extrêmement brutale, avec des morts régulièrement, à une gestion quasiment militaire. Là, il faut savoir d'ailleurs qu'en France, il y a des camps d'entraînement qui se préparent à la guerre urbaine. Et je pense que déjà Marine Le Pen, par exemple, considère que on n'est pas très loin de la guerre civile, etc. Donc, voilà, ce serait un petit peu pas pour dire qu'aujourd'hui c'est merveilleux, mais pour dire que ça peut être encore pire. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que soit il faudrait en rester à cette situation, soit il faudrait voilà, fantasmer un retour à la démocratie normale, libérale, bon, qui n'a jamais existé sur ces aspects, ni qu'il faudrait faire de l'antifascisme électoral entre les deux tours en appelant à voter Macron, puisque évidemment, ça ne change rien à la situation. Voilà, je veux dire, justement, je pense qu'il y a un des aspects intéressants chez Ugo Paletta, c'est que clairement, si on laisse se poursuivre cette dynamique, qu'on réélise Macron ou pas en 2022, ça ne change rien au fait qu'à un moment, si il n'y a pas une forte alternative antifasciste qui se construit, une alternative antifasciste qui serait à la fois anticapitaliste, antiraciste, anti-étatiste, bon, même si lui, voilà, c'est un trotskiste, donc il va pas jusque-là, mais disons, bon, dans notre perspective aussi anti-étatiste, clairement, il n'y aura pas de. Voilà, on ne pourra pas éviter cette situation. Donc, je pense par rapport à la question de la répression, ce serait une nouvelle échelle dans la répression qu'on connaît. Sur la question des milices, la différence, c'est que même si, évidemment, il y avait déjà des forces de répression relativement importantes dans les années 20, en Italie, dans les années 30, en Allemagne, que effectivement les milices fascistes, c'est-à-dire les squadristes en Italie et la SA et la SS en Allemagne, ont bénéficié de la complicité active à la fois de l'armée et de la police. Ces appareils de répression, la police notamment, n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui en termes de moyens, en termes d'effectifs, etc., etc. et que on peut imaginer que de toute façon la police étant aujourd'hui, et l'armée aussi d'ailleurs, tellement acquise déjà aux idées du Front National que, bon, déjà aujourd'hui, il y a moins de menaces révolutionnaires ouvrières, donc il y a moins besoin d'utiliser déjà des milices avant la prise du pouvoir pour mater les révoltes populaires. De toute façon, ces révoltes peuvent déjà être matées avec la police, il n'y a même pas besoin d'y ajouter des milices. Et une fois au pouvoir, le Front National pourrait se contenter simplement de sceller un pacte avec avec la police, qui est déjà largement acquise à ses idées, et la police pourrait faire le sale boulot qu'ont fait en partie les milices fascistes dans les années 20 et les années 30. Donc il n'y aurait même pas besoin de diviser entre SA, SS et Gestapo, il suffirait de transformer la police française en une espèce de Gestapo, ce qui, étant donné le degré de radicalisation nationaliste et raciste de certains segments de la police, comme notamment la BAC, ne serait pas si difficile que ça à envisager. Et donc, finalement, il n'y aurait même plus vraiment besoin de milices. Après, par contre, ce qui est sûr, c'est que si le Front National arrive au pouvoir, tous les groupuscules d'extrême droite qui existent aujourd'hui, le GUD, Génération Identitaire, etc., effectivement, aurait une légitimité, et on sait que ce sont que tous ces groupuscules d'extrême droite, pour certains, ont déjà, évidemment, des méthodes violentes, mais en plus un certain armada, et que là, effectivement, ces milices seraient en fait directement légitimées par la prise du pouvoir par le Front National, et que ces milices, du coup, finalement, ne seraient pas générées directement par le Front National, mais que le Front National laisserait faire, en fait, ces milices, et qu'il y aurait une relative impunité, tout comme, d'ailleurs, au début des années 20, l'État italien, qui n'était même pas fasciste, laissait faire les milices fascistes, massacrer des mouvements, des militants ouvriers, des militants syndicalistes, des hommes politiques de gauche, des journalistes, dans la plus complète impunité, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Allemagne au début des années 30. Voilà, après peut-être pour la situation internationale, même si je ne sais pas exactement si c'était ta question, je pense que la différence entre les années 20 et les années 30 et aujourd'hui, c'est que je pense que la radicalisation, j'aime pas forcément ce terme, mais disons... l'extrémisation entre guillemets nationaliste et raciste, du néofascisme notamment en France, prendrait pas tellement la forme d'une agression externe, mais plutôt d'une agression interne. Voilà, la situation de l'Italie et de l'Allemagne dans les années 20 et 30 était un petit peu spécifique. C'était des États-nations qui estimaient avoir été floués par la Première Guerre mondiale et qui voulaient donc rétablir à un juste niveau. Ce qu'elles estimaient devoir être leur, c'est-à-dire pour l'Allemagne un espace vital en Europe de l'Est et pour l'Italie des colonies. Je pense qu'aujourd'hui ce serait vraiment principalement une agression tournée vers l'intérieur et principalement vers les musulmans qui sont la cible numéro un du Front National et qui est d'ailleurs la minorité qui serait la plus, malheureusement c'est le cas de le dire, la plus légitime de persécuter aux yeux de l'opinion française, puisque je pense que c'est effectivement aujourd'hui la partie de la population avec les Roms. Alors les Roms, là, effectivement, je pense qu'en cas de prise du pouvoir du Front National, ils prendraient extrêmement cher. Mais je pense que ce serait peut-être les deux parties de la population qui, étant déjà considérées comme étrangères à la nation française par une partie de la population, aujourd'hui, serait susceptible d'être victime de choses de l'ordre de camps de concentration, de déportation. Une idée que Zemmour a essayé de populariser, hein, même si c'est sous un concept de remigration. Enfin bon, quand la remigration est forcée, ça s'appelle de la déportation.
Moi, je pensais aussi au fait que, mine de rien, on n'est pas dans la même économie qu'à l'époque et que, par exemple... Il y a quand même quelque chose moi qui m'a surpris dans l'actualité récemment et qui était un peu délirant, c'est quand je sais plus quelle personnalité est allée soutenir Marine Le Pen là juste avant les européennes et que du coup en fait les commentateurs BFM tout ça etc, beaucoup de journalistes étaient en train de monter en fait un complot d'une internationale fasciste en fait, genre entre Marine Le Pen, Poutine et Trump. Donc, je trouve cette thématique en fait d'une solidarité fasciste internationale, en fait, qui se congratule elle-même, assez invraisemblable quand on sait à quel point, effectivement, le fascisme s'ancre dans le nationalisme. Et du coup, je me disais peut-être que cette idée qu'il n'y aurait pas de défilé armé, dans le sens où il n'y aurait peut-être pas de conflit militaire, effectivement, entre deux pays, il serait potentiellement remplacé, effectivement, par du coup une persécution interne avec un ennemi de l'intérieur, chose qui était déjà présent aussi dans le fascisme. Mais du coup, effectivement, pour l'international, je trouve cette situation actuelle déterminante dans la spécificité du fascisme tel qu'il va s'exprimer dans les années à venir.
Et finalement, c'est là où on voit que la globalisation et aussi l'européisation a aussi touché l'extrême droite. Une bonne partie aujourd'hui des mouvements d'extrême droite se réclament davantage finalement de l'Occident, de la race blanche, de l'Europe païenne pour ce qui est du Grèce d'Alain de Benoît. Effectivement, il y a cette référence supranationale qui est assez importante. Effectivement, on a vu des solidarités. Alors même si, est-ce que Trump et Poutine sont fascistes? Peut-être pas, mais c'est sûr que dans une situation qui serait fasciste, eux le deviendraient très clairement. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un aspect très, très intéressant et d'ailleurs qui prend des formes assez étranges. Par exemple, la solidarité de l'extrême droite autrichienne, qui elle, clairement, est post-fasciste, dans le sens où elle a été fondée par un ancien SS. Donc, Haider, donc, qui est mort début des années 2000, qui prend même la forme d'une solidarité avec Israël, vu comme faisant partie de cette défense de l'Occident, voilà, face à l'envahisseur islamique, etc. Après, je pense qu'il faut pas non plus surestimer complètement cette solidarité fasciste. Bon, déjà parce qu'elle a existé déjà dans les années 20 et 30, hein. Bon, on connaît. Voilà l'alliance entre Hitler et Mussolini, le fait que Franco était quand même assez proche de ces deux-là. Mais d'un autre côté, ce qu'on peut observer aussi, c'est que une fois au pouvoir, en fait, ces partis fascistes ont peut-être moins intérêt à collaborer, sauf s'ils ont vraiment des objectifs géopolitiques parfaitement convergents. Donc, ce qui était le cas, par exemple, pour l'Allemagne et l'Italie, puisque l'Italie souhaitait étendre sa sphère d'influence au niveau des Balkans et dans la Méditerranée, alors que l'Allemagne, elle, cherchait à s'étendre en Europe de l'Est. Donc là, il y avait une compatibilité, et donc effectivement, il pouvait y avoir une alliance. Mais par exemple, ça n'a pas toujours été le cas. On sait que par exemple qu'en 1934, quand Hitler a tenté d'annexer une première fois l'Autriche, l'Italie a été son principal obstacle, puisque l'armée italienne s'est massée au col du Brenner, donc à la frontière avec l'Autriche, pour empêcher que l'Autriche fasse partie de l'Allemagne. Donc on voit qu'une fois au pouvoir, eh bien, ces partis fascistes de pays différents pourraient entrer en contradiction partielle ou totale. Et bah, alors, ce qui n'empêchera pas évidemment une certaine solidarité géopolitique en termes de défense d'objectifs communs, défense de la race blanche face aux musulmans, etc., etc. Mais voilà, par exemple, on le voit bien, même si c'est pas pour le coup des fascistes, mais disons que c'est des formes d'autoritarisme assez importants. Donc Trump et Poutine étaient effectivement très proches avant l'élection de Trump, et puis une fois que Trump est arrivé au pouvoir, on va malgré tout les États-Unis et la Russie ayant quand même des intérêts géostratégiques divergents. Bon, voilà, Trump et Poutine ne sont plus aussi proches qu'ils l'ont été et entrent partiellement en contradiction. Donc, malgré tout, je pense que même si à un niveau idéologique, il peut y avoir des convergences, particulièrement en Europe où en plus, bon, voilà, il y a les élections européennes où effectivement les partis fascistes, néo-fascistes en gestation ont un intérêt à s'allier pour former un groupe parlementaire. Je pense que pour autant, une fois au pouvoir, ils vont plutôt quand même se recentrer sur un nationalisme, et même dans leur discours d'ailleurs, le Front National par exemple, a quand même un discours qui est avant tout nationaliste. Peut-être d'ailleurs que c'est une des contradictions en fait, je pense, de l'extrême droite, c'est que comme le définit Alain Bire dans L'actualité d'un archaïsme, lui il dit qu'une des caractéristiques de l'extrême droite, c'est une fétichisation de l'identité collective. Donc fétichisation qui est en fait le fait de considérer comme naturel, positif, transhistorique, éternel, naturel, une identité qui est en réalité le produit d'une histoire d'un imaginaire, d'une idéologie, etc. Donc typiquement la nation française, la race germanique, etc., qui sont pas des constructions qui ont toujours existé, ou des constructions qui existent au-delà du fait que elles sont qu'il y a une partie des acteurs sociaux qui y adhèrent. En fait, le problème de l'extrême droite, c'est que quelle identité collective on fétichise? Et c'est là, comme il y a plein de niveaux, effectivement, après, il y a des gens comme Génération Identitaire qui disent, bah, nous, on est à la fois régionaliste, localiste, nationaliste, européiste et défenseur de la race blanche. En idéologie, ça marche, mais disons que en termes politiques, il y a forcément un niveau qu'il faut privilégier. Le Front National a décidé de privilégier le niveau nationaliste quand même, malgré tout. Ce qui fait que, bon, par exemple, je suis pas sûr qu'ils s'entendent hyper bien, par exemple, avec l'extrême droite nationaliste allemande. Et aussi, par exemple, ils s'entendent pas très bien avec les mouvements régionalistes. Enfin, certains d'entre eux, par exemple, c'est ce qui explique, par exemple, qu'en Bretagne, le Front National a encore beaucoup de mal. Parce que bon bah le nationalisme français en Bretagne n'est pas particulièrement bien vécu, même et y compris par l'extrême droite. Donc il y a encore cette espèce de tension, disons, dans l'extrême droite, au moins entre une solidarité à plusieurs échelles d'identité collective et un recentrement sur le nationalisme. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'époque est quand même plus propice à une solidarité fasciste internationale ou européenne ou occidentale que dans les années 20 et 30, parce que l'époque est moins à des guerres, puisque bon, aujourd'hui notamment, je veux dire, l'extrême droite allemande voudrait attaquer la France, ce serait tout de suite un tapis de bombes nucléaires, donc évidemment avec un intérêt économique et matériel quand même assez mineur. Alors qu'effectivement, en 40, l'armée allemande pouvait envahir en 6 semaines la France. Aujourd'hui, à part si l'Allemagne veut être rasée de la carte, ça n'a plus grand intérêt. Donc je suis d'accord effectivement qu'il y a quand même eu un changement là-dessus.
Ok, du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Alors peut-être que ce qui serait intéressant, je pense, à rajouter, c'est quand même la question du Front National. Je pense que c'est quand même une question importante parce que j'ai parlé beaucoup donc du deuxième, du troisième et du quatrième chapitre de l'ouvrage, donc qui pointe déjà les tendances actuelles, qui à la fois manifeste le fait qu'on n'est plus très loin du fascisme, et à la fois prépare la population au fascisme. Je reviens pas trop sur la première partie qui est hyper intéressante sur le fascisme, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans d'autres émissions. On peut simplement pointer que lui, il pense que le concept de populisme est pas forcément une bonne chose. Là où je suis partiellement d'accord et partiellement pas d'accord, je pense que ce concept, effectivement, il a un problème fondamental, c'est qu'il est beaucoup trop vague. Tout le monde en appelle au peuple, en fait, au final, que ce soit Macron, Fillon, etc. Maintenant, tout le monde se dit anti-système, même Macron a dit qu'il était contre le système. Finalement, le fait de se dire contre les élites et pour le peuple, effectivement, tous les partis le disent. Après, malgré tout, je pense que le concept est encore un petit peu d'utilité pour pointer, à mon avis, le problème dans le discours de la gauche qui elle-même se dit populiste et qui, à mon avis, se focalise trop sur une opposition entre un bon peuple et une méchante oligarchie, qui se rapproche quand même pas mal du discours d'extrême droite, quand même, il faut bien le dire, et d'autre part qui annihile complètement la structure de classe et le conflit de classe. Et aussi le fait que le capitalisme, c'est pas juste une méchante oligarchie, mais c'est avant tout un système d'exploitation qui a une dynamique propre, de concurrence généralisée, de dépenses au salariat, etc., etc. Et que on peut pas simplement se contenter de critiquer l'oligarchie. Et d'autre part, on peut pas simplement parler du peuple dans le sens où le peuple, entre guillemets, il est traversé de contradictions de classe, de race, entre guillemets, au sens d'une construction sociale matériellement effective, puisque évidemment on sait que certaines populations, notamment les musulmans en France, les Roms, sont victimes de discriminations que les Blancs ne subissent pas, et de violences policières, etc. Donc le peuple, c'est trop large, hein. Donc je pense que là-dessus, il a quand même assez raison, et surtout, le problème de dire que le Front National, c'est un parti populiste, c'est que Bon, d'une part, effectivement, ça exagère les convergences entre le Front National et la France Insoumise, qui, bon, effectivement, il y a certaines petites convergences idéologiques qui existent et qu'il faut dénoncer, mais malgré tout, c'est pas la même chose. Et puis surtout, ça obscurcit le fait que le Front National est un parti qui est à la fois post-fasciste, dans le sens où il a été créé par des fascistes. Le numéro 2 du Front National dans les années 1970, quand il a été créé, c'était quand même un des principaux collaborationnistes, le numéro 2 de Jacques Doriot, qui est le principal collaborationniste en France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a quand même revêti l'uniforme allemand pour aller tuer des Russes sur le front de l'Est. Donc on est quand même sur du haut niveau. On sait que Jean-Marie Le Pen était un grand fan de la Wehrmacht, dont il a d'ailleurs édité pas mal de CD de musique. Il a rencontré tous les fascistes européens. Bon, voilà, c'est pas un secret que le Front National a été fondé par des collabos, des nostalgiques du régime de Vichy, des admirateurs de Hitler et Mussolini. Donc voilà, il faut pas l'oublier. Et puis aussi, c'est pas seulement un parti post-fasciste, parce que là, on pourrait se dire, oui, mais Marine Le Pen, c'est autre chose, etc., etc. Non, c'est un parti néofasciste en gestation, dans le sens où, dans des conditions de crise politique, économique, sociale exceptionnelle, le Front National, clairement, pour faire triompher son projet, voilà, de sauvegarde de l'identité française contre l'immigration, la mondialisation, etc., serait totalement prêt à recourir à des moyens fascistes. Alors, justement, pour en venir au Front National, alors, bon, voilà, l'idée de ce chapitre, donc, c'est que, bon, évidemment, le Front National n'est pas sur le déclin. Là, de toute façon, on l'a très bien vu avec les européennes. Maintenant, voilà, premier parti. C'est pas un parti qui est sur le déclin, c'est un parti qui devrait poursuivre son ascension, même si c'est par palier, même si, évidemment, ça dépend des autres partis politiques, ça dépend de la situation économique et sociale, ça dépend de la réponse, notamment des forces antifascistes, de gauche, d'extrême gauche, etc. Mais enfin, globalement, on ne peut pas s'attendre à un déclin du Front National. Deuxième illusion, c'est l'idée que le Front National serait en fait un parti qui serait en train de devenir simplement un parti de droite, un petit peu l'UMP de Sarkozy. Alors, je pense que là-dessus, on fait quand même une assez grosse erreur, et notamment, c'est quand on exagère la différence entre Marine et Jean-Marie Le Pen. Évidemment, je pense que Marine Le Pen est moins fasciste que Jean-Marie Le Pen, puisque de toute façon, ils sont pas de la même époque. Jean-Marie Le Pen, il a quand même connu plein d'anciens de la collaboration, d'anciens nazis et tout. Il était dans une époque, il a quand même été parachutiste en Algérie, il a torturé des gens. Donc évidemment, je veux dire, Jean-Marie Le Pen hésiterait beaucoup moins à mettre en place un État fasciste complet que Marine Le Pen qui, disons peut-être effectivement il irait un peu moins fort dans le fascisme, enfin bon, si tant est que ça veut dire quelque chose. Donc je pense que la principale différence c'est avant tout une question stratégique et tactique. Donc par exemple on a beaucoup parlé du fait que le Front National était plus antisémite. Je pense que effectivement il est moins antisémite dans le discours, encore qu'on voit encore des petites rémanences lorsqu'il s'attaque à la finance cosmopolite financière internationale, bon, ce qui clairement historiquement est associé aux juifs, d'une part, et puis d'autre part, on sait que, et le livre notamment le rappelle, les électeurs de partis les plus antisémites sont les électeurs du Front National, et on se doute bien que ça doit être la même chose pour les militants, qui sont encore probablement plus antisémites, et pour le bureau politique. Mais simplement, voilà, la question de l'antisémitisme, ça fait pas vendre grand-chose. Donc en termes politiques, et c'est là où effectivement les partis de gauche et de droite néolibéraux ont préparé malgré tout l'ascension du Front National, c'est qu'ils ont légitimé l'islamophobie à une ampleur sans précédent, y compris avec des mesures pratiques discriminatoires. Comme l'interdiction du port du voile à l'école, comme l'interdiction pour les femmes voilées d'accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires, etc., etc. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'interdirait d'utiliser le mot d'islamophobie, qui n'a rien à voir avec la critique de la religion, puisque on parle bien d'antisémitisme, même si ça n'empêche pas qu'à côté on puisse critiquer la religion judaïque. Donc, je pense qu'il faut vraiment dissocier, et malheureusement à l'extrême gauche, c'est pas toujours le cas, la question de l'islamophobie, qui est une racialisation du religieux, c'est-à-dire où on va prendre tous les musulmans ou assignés comme tels, comme une espèce de bloc homogène, et on va leur attribuer un certain nombre de caractéristiques péjoratives. Donc ça, c'est l'islamophobie, même si on pourrait peut-être trouver un meilleur terme, racisme islamophobe, racisme anti-musulman, anti-islam, peu importe. Et d'autre part, la critique de la religion, qui une critique des structures et pas des individus en tant que tels. Et là-dessus, d'ailleurs, peut-être qu'il faut quand même faire un point sur cette question de l'islamophobie, c'est que, ce qui explique très bien le livre, c'est que les partis de gauche, de centre-gauche et de droite, au pouvoir depuis 1981, et même peut-être depuis les années 70, sont en perpétuelle perte de légitimité populaire. Parce que les mesures néolibérales frappent violemment une partie croissante de la population. Et donc ce qui fait que leur base sociale, sur des bases purement, disons, d'adhésion aux réformes néolibérales, en fait, c'est principalement les classes moyennes, salariés supérieurs, les cadres, des patrons d'entreprise, mais ça fait pas grand monde. Et donc, enfin, pour bâtir, disons, une légitimité populaire suffisante pour gagner des élections et se maintenir au pouvoir, on peut pas simplement s'en tenir à ça. Et donc, comme on peut plus s'appuyer sur le compromis de classe fordiste comme celui d'après 1945, où globalement la classe ouvrière blanche masculine reconnaissait la légitimité de la 4e et de la 5e République parce que on leur avait offert certains avantages en échange. Là, et ben, même cette classe ouvrière masculine blanche, effectivement, elle bénéficie plus de grand-chose, si ce n'est de privilèges liés à la masculinité et à la blanchité par rapport aux femmes et par rapport aux personnes racisées. Mais bon, à part ça, elles sont touchées de plein fouet par le néolibéralisme. Et donc, la seule manière de les rallier aux partis néolibéraux, ça a été de construire un nouveau clivage, enfin, ou disons de réactiver ou d'activer particulièrement le clivage racial. C'est-à-dire que globalement, ce que les partis néolibéraux de centre-gauche et de droite ont essayé depuis 30 ans, c'est de fonder leur légitimité électorale et politique non pas sur une alliance de classes sur des bases de le capitalisme des 30 glorieuses, c'est bon pour tout le monde y gagne, partage des fruits de la croissance, etc., mais sur des bases raciales. Donc voilà, c'est pour ça que lui parle d'un bloc blanc sous domination bourgeoise. Donc finalement, la plupart des partis, et particulièrement, c'est particulièrement visible sous Sarkozy notamment, la légitimité populaire de Sarkozy a été basée surtout lors de sa campagne de 2012, et disons à partir de 2008, basée sur voilà, l'idée qu'on défend ensemble contre la racaille, l'immigration, la menace sur l'identité nationale, etc., etc. Et donc là-dessus, le Front National ne fait que recueillir les fruits de cette fuite en avant des partis politiques traditionnels, fuite en avant raciste, islamophobe, anti-immigration, etc., qui était en fait nécessaire du fait qu'ils avaient, sinon ils perdaient tout soutien populaire lié à leur politique néolibérale. Donc le Front National bénéficie évidemment de ça et le reconduit. C'est-à-dire que, bien sûr, le Front National, lui aussi, il a un soutien populaire. Alors certes, c'est pas le parti de la classe ouvrière, comme on l'a dit. Tous les gens qui votaient pour le PCF ne votent pas pour le Front National aujourd'hui, comme on l'a dit. Mais malgré tout, même si le premier parti de France des classes populaires, c'est l'abstention, donc le refus, disons, de l'offre politique actuelle, le second, c'est malgré tout le Front National. Donc le Front National reste le parti le plus plébiscité parmi les ouvriers, et les employés, c'est un peu plus mitigé, mais enfin, voilà. Et parmi les agriculteurs également. Les chômeurs aussi. Donc, on voit bien que le Front National a bien un ancrage social. Mais cet ancrage social, à mon avis, il se base pas principalement sur des questions économiques. Parce que quand on regarde le programme économique du Front National, comme tout le programme des partis fascistes des années 20 et 30, c'est un programme qui change régulièrement. Donc Jean-Marie Le Pen était ultra-libéral. Marine Le Pen, version Florian Philippot jusqu'à la dernière élection, était en mode souverainiste, défense des conquêtes sociales, la retraite à 60 ans, etc. Un peu de keynésianisme mou, l'état stratège. Mais en fait, fondamentalement, dans le programme, il y a aussi des propositions très libérales, de soutien aux PME, aux petits patrons, etc. C'est pas très cohérent. Donc au final, le Front National ne peut trouver de cohérence qu'au travers d'un projet nationaliste et raciste. Même si, pour attirer un peu les classes populaires, ou au moins pour ne pas les faire fuir par rapport à ça, ils peuvent, disons, officiellement être pour un néolibéralisme plus timoré. Voilà. Le Front National risque, avec l'aggravation des politiques néolibérales, donc menées notamment par Macron, donc l'aggravation de la crise d'hégémonie des partis politiques bourgeois, avec également l'aggravation de l'état néolibéral autoritaire, qui fait que, évidemment, les gens vont être plus enclins à accepter un parti sécuritaire et autoritaire comme le Front National. Et puis, voilà, avec le développement continu de l'offensive nationaliste et raciste, voilà, le Front National est relativement bien parti pour dans un jour pas si éloigné que ça, arriver au pouvoir, si on en reste à la situation actuelle, qui est de pratiquer un antifascisme purement électoral. Alors là, je parle de manière générale, hein. Évidemment, il y a des groupes antifascistes qui font un travail remarquable, etc. Mais disons à une grande ampleur, tant qu'il n'y a pas de mouvement antifasciste de grande ampleur, ce qui risque de se passer, qu'on va aller voter pour le moins pire, soi-disant, c'est-à-dire pour le parti néolibéral qui a le plus de chances de battre le Front National. Et puis à un moment, cette stratégie ne marchera plus. D'autant plus que finalement, c'est une stratégie complètement contre-productive, parce que si on dit que la seule solution au Front National, c'est Macron, ça veut dire que réciproquement, pour les gens qui ne veulent pas de Macron, la seule solution est le Front National. Donc là, effectivement, il y a un côté complètement contre-productif à cette espèce d'antifascisme de bas étage électoral. Donc, la seule solution, évidemment, pour battre le Front National, ce n'est pas d'espérer qu'il se modère tranquillement, ce n'est pas qu'il décline, ce n'est pas d'espérer non plus qu'en fait, il n'aurait pas d'ancrage social dans les classes populaires, etc., puisqu'il en a. Ce n'est pas non plus qu'il serait finalement anticapitaliste, puisque évidemment, il ne l'est pas. Il oscille entre un keynésianisme mou et un libéralisme dur. La seule possibilité, c'est de construire une alternative antifasciste relativement forte.
Ok. Et du coup, ça me fait penser à un truc en tant qu'anarchiste. Et au final, je trouve que la catégorie d'autorité, en fait, elle n'est pas centrale. Alors que pour moi, en tant qu'anarchiste, pour la critique du fascisme, c'est fondamental de mettre la catégorie de l'autorité et de processus autoritaire comme catégorisant le fascisme. Est-ce que là, tu trouves que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans ce livre ou qu'au final, effectivement, c'est qu'accessoire, c'est qu'un moyen, l'autorité est présentée que comme un moyen comme un autre d'arriver à ses fins et non pas comme une catégorie structurante de ces formes de pouvoir?
Alors, je pense qu'il y a une ambiguïté dans le livre de Hugo Paletta, La possibilité du fascisme. D'un côté, il pointe bien le fait que l'État actuellement est de plus en plus autoritaire et de plus en plus répressif. Donc il pointe bien le fait qu'il y a un autoritarisme d'État croissant. Il pointe bien le fait que le fascisme serait une forme suprême d'autoritarisme avec la suspension des limites démocratiques habituelles dans le cadre d'un régime libéral. Voilà, donc suspension des libertés de manifester, de la presse, etc. etc. Le fait que la justice, même si tu te fais buter, ne fonctionne pas, bon, ce qui est déjà le cas pour les personnes racisées, mais là disons qu'il se généraliserait un petit peu plus. D'un autre côté, il thématise pas vraiment la question de l'État et du pouvoir. Alors, d'une part, je pense de manière assez juste. Il dit le fascisme, c'est pas simplement le stade suprême de l'État ou une forme d'autoritarisme d'État un peu aggravé. C'est effectivement un régime politique lié à une phase très particulière du capitalisme dans une situation de crise assez exceptionnelle. Donc il a raison de dire que fascisme et État, c'est pas la même chose. Pour autant, finalement, son alternative antifasciste n'est pas très claire. Et je pense que c'est lié au fait qu'il est effectivement trotskiste. C'est-à-dire qu'il parle de pouvoir populaire, de démocratie réelle, mais il utilise quand même des concepts qui sont quand même assez flous et qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Donc, voilà, il ne s'oppose pas forcément à la voie électorale. Alors, il dit qu'il ne faut pas privilégier qu'une seule option tactique et stratégique. Bon, à la limite, ce que je peux comprendre. Mais clairement, je pense que son type d'antifascisme, voilà, ne questionne pas suffisamment, ne thématise pas suffisamment la question de l'État comme étant intrinsèquement un problème au-delà même de lorsqu'il prend une forme fasciste. Et effectivement, en tant que libertaire, en tant qu'anti-autoritaire, je pense que une des principales divergences avec son analyse stratégique, sur lesquelles je pense on va arriver pour clore cette émission, voilà, c'est le fait que voilà, un mouvement antifasciste doit être clairement anti-autoritaire, à la fois pour des raisons pragmatiques, parce que on sait très bien que l'antifascisme, lorsqu'il est dirigé par en haut et à la merci de tous les opportunismes, des revirements, etc. Il suffit de penser à l'antifascisme du PCF et des partis communistes dans les années 30 qui passaient de finalement notre pire ennemi, c'est la social-démocratie, à défense de l'ordre bourgeois contre le fascisme. Enfin voilà, une ligne pas du tout cohérente. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'un antifascisme d'en haut, à mon avis, est toujours dangereux, puisque voilà, les gens ont évidemment moins de contrôle dessus, et c'est propice à tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi, comme on l'a vu dans les années 30, l'antifascisme d'État n'a pas vraiment prouvé trop son efficacité. Hein. Il a même fini, même s'il est arrivé au pouvoir en France et en Espagne, il a quand même fini par perdre. Et d'autre part, je pense que aussi, évidemment, si ce mouvement antifasciste venait à gagner et qu'il avait été structuré de manière particulièrement hiérarchique, autoritaire et verticale, inévitablement, ça déboucherait, sur probablement une espèce de régime de gauche autoritaire. Alors peut-être pas l'URSS et la Corée du Nord, mais enfin quelque chose, disons, de peu souhaitable. À mon avis, même l'antifascisme électoral est clairement pas une bonne solution. Alors ça, il le dit, pour le coup, un parti de gauche antifasciste qui arrivera au pouvoir, c'est pas forcément la bonne solution, parce que il faut pouvoir combattre le fascisme, et ça c'est ce qu'il dit, sur le terrain des idées, mais aussi sur le terrain. Et donc ce qui implique évidemment pas forcément un respect stricto sensu de la légalité bourgeoise. Qui d'ailleurs, strict respect de la légalité bourgeoise, qui n'a jamais été un obstacle au fascisme. Il suffit de penser aux socialistes italiens, qui se sont contentés, face à la montée du fascisme italien, de dire « il faut intervenir, il faut faire cesser ça, il faut que la police empêche machin, il faut que la justice punisse les fascistes, etc. » Total, les socialistes se sont retrouvés marginalisés, exclus, et puis traqués et tués. Donc la modération dans l'antifascisme, ça n'aide pas à grand chose. Que ce soit pas vraiment au pouvoir comme les socialistes italiens, que ce soit partiellement au pouvoir comme les sociaux-démocrates allemands. Les sociaux-démocrates allemands jusque 1933, ils contrôlaient la 32-33, ils contrôlaient quand même la police de Prusse, qui était l'essentiel du territoire allemand. Ils contrôlaient vraiment les forces de répression. Mais voilà, ça n'a servi à rien. Et finalement, l'autodéfense antifasciste qui existait, bon, menée notamment par des jeunes prolétaires d'ultra-gauche, anarchistes ou communistes, eux avaient une efficacité beaucoup plus forte face au danger fasciste. Voilà, pareil, les esquisses de milices d'autodéfense antifasciste en Italie. Et puis, il suffit de penser, même quand les socialistes sont censés avoir tout le pouvoir sur l'État, comme c'était par exemple le cas au Chili, sous Allende, au début des années 70, Ça n'empêche pas que, voilà, finalement, un régime que, voilà, est-ce qu'il était fasciste? Je pense pas qu'il était fasciste, mais disons un régime autoritaire et dictatorial, comme celui de Pinochet, puisse se mettre en place. Donc, clairement, la solution, c'est pas dans les élections, c'est pas dans le respect stricto sensu de la légalité bourgeoise, ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire des choses dans le respect de cette légalité bourgeoise, mais disons qu'il faut pas, face au danger fasciste, se contenter de, voilà, de rester dans les clous électoraux et légaux, mais qu'il faut voilà, développer une multitude de moyens d'action en termes de contre-propagande, en termes d'occupation du terrain, en termes de lutte contre le fascisme dans les rues, en termes de... Et voilà, et évidemment, ça dépend. Par exemple, le Front National, c'est pas en allant lui casser la gueule qu'on va faire avancer les choses. Donc là, effectivement, il y a une lutte sur les idées, il y a la nécessité de... effectivement de contrer son implantation locale, etc. Et puis après, évidemment, face à des milices proprement néofascistes qui sont à côté du Front National, disons, évidemment, la stratégie doit être un petit peu plus de confrontation. Donc, je pense que, finalement, bon, la conclusion du Gopaletta politique est quand même relativement intéressante, mais la grosse faiblesse, à mon avis, de son analyse, c'est de raisonner encore trop en termes de front populaire antifasciste, même s'il dit bien que il faut que ce soit anticapitaliste, antiraciste et pour la démocratie réelle, malgré tout ça ouvre la voie quand même à un antifascisme un peu plus d'État, un peu plus de parti, alors que à mon avis c'est plutôt un antifascisme d'en bas qu'il faut, pour des raisons de leçons historiques. Et à la fois aussi en termes de perspective politique, la démocratie réelle, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il vaut mieux poser clairement une alternative anti-autoritaire, même si ça veut pas dire, et ça effectivement je reconnais qu'il a raison là-dessus, même si ça veut pas dire qu'il faut arriver auprès des gens et dire si vous voulez combattre le fascisme, il faut adhérer au communisme libertaire. C'est sûr que comme ça va pas marcher. Et il dit bien, Hugo Paletta, à mon avis, de manière intéressante, et je pense que l'expérience des Gilets jaunes le montre très bien, c'est que les gens vont se radicaliser dans les idées à travers des luttes, principalement, et pas en leur disant il faut adhérer au programme du mouvement communiste libertaire. Voilà. Donc, il faut partir, disons, sur une base minimale, antiraciste, antinéolibérale, anticapitaliste le plus, et anti... autoritarisme, évidemment, pousser ça le plus loin possible et aller même au-delà de ce que souhaite Hugo Paletta, c'est-à-dire vers une rupture réelle avec le capitalisme, parce que on ne sait pas trop ce qu'il entend par capitalisme. Je ne sais pas si dans son esprit ça veut dire l'abolition du travail marchandise, le communisme libertaire et tout ça. Voilà, en tout cas, ça doit être l'horizon, même si ça ne veut pas dire qu'il faut obliger les gens à adhérer à ça dès le début, parce que c'est le plus sûr moyen d'échouer. Et même si ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement se baser sur des moyens d'action qui sont considérés comme radicaux, effectivement, la propagande, le fait d'occuper des espaces publics, des médias, etc. Voilà, des moyens d'action plus classiques et légalistes peut aussi effectivement être un moyen qu'il ne faut pas rejeter au nom d'une radicalité pure, même si inversement, il ne faut clairement pas se contenter d'un antifascisme légaliste. Ce que semble dire Hugo Paletta, c'est qu'il ne faut pas, à mon avis, fétichiser un seul moyen de lutte, mais qu'il faut chercher à effectivement maximiser le nombre de tactiques antifascistes. Après, la seule limite que je verrais à son propos, c'est qu'il y a clairement des moyens de tactiques antifascistes qui me semblent moins pertinents. Bon, malheureusement, oui, c'est vrai que sur l'antifascisme a permis en France au Front Populaire d'arriver au pouvoir. Et c'est vrai qu'il a permis en Espagne au Front Populaire d'arriver au pouvoir. Mais malgré tout, c'était clairement pas une condition suffisante. Alors, Et puis en plus, comment est-ce qu'on crée une alliance antifasciste c'est un problème aussi très important qui a été connu. Enfin, qui s'est posé dans les années 30. C'est-à-dire, une alliance antifasciste qui va, des catholiques... antifascistes jusqu'aux anarchistes, comme en France, bon en France il n'y avait pas les anarchistes, mais disons jusqu'au Parti communiste, Évidemment, ça fait que, en fait, au final, ben, c'est quand même, il faut quand même se souvenir que c'est, même s'il y a eu l'exclusion des députés communistes entre-temps, c'est quand même le Parlement élu par le Front populaire qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc, clairement, c'est pas vraiment une garantie, quoi. Et d'un autre côté, en Espagne, finalement, l'antifascisme était plus révolutionnaire, mais comme il incluait le Parti communiste, ça n'a pas empêché le Parti communiste de le noyauter et de vider de sa substance et de l'utiliser comme un prétexte pour liquider toute opposition à sa gauche, d'une part, et d'autre part, finalement, c'était finalement un peu trop révolutionnaire pour vraiment regrouper une partie importante des classes moyennes, des paysans et tout. Donc voilà, mais c'est une question très complexe sur laquelle il faut réfléchir. Voilà, notamment voilà, les exemples historiques. En tout cas, ce qui paraît sûr, c'est que il y a un travail entre guillemets antifasciste multiforme à effectuer dès maintenant et qui doit voilà tenir compte pragmatiquement de la situation, c'est-à-dire pas se figer dans une posture maximaliste ni en même temps être extrêmement mou et molle et consensuel et finalement aboutir à une défaite du camp révolutionnaire entre guillemets.
Ok, donc diversité des tactiques dans une perspective de masse et discours pertinent face, par rapport à la réalité qu'on a en face de nous. Ça me semble être une bonne conclusion du coup. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
En termes de perspective d'action ici en France, le livre d'Hugo Paletta, même s'il y a des choses à redire, globalement, ça reste un excellent ouvrage qui fait le point sur la question du fascisme aujourd'hui, qui fait le point sur la crise des partis politiques bourgeois aujourd'hui, qui fait le point sur voilà l'autoritarisation de l'État, qui fait le point sur l'offensive nationaliste et raciste, et qui fait le point sur le Front national comme parti néo-fasciste. Et puis après, on peut aussi, disons, au moins prendre comme point de départ de discussion, voilà, les propositions stratégiques et tactiques qu'il a, dans sa conclusion.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.